Merci Patrick, merci à tous d'être venus m'écouter un samedi après-midi. Donc moi effectivement je vais vous proposer donc une conférence sur ce que j'appelle les idéologies de l'identité nationale. Et ben je vais vous expliquer en fait pourquoi j'en suis venu donc dans mon parcours. Je suis anthropologue, chercheur au CNRS, et je vais vous expliquer en fait comment j'en suis venu à travailler sur cette question de l'identité nationale. Je vais rester debout parce que vous me verrez mieux, je pense, et je vais essayer de me débrouiller avec l'ordinateur en même temps. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord sur mon parcours de chercheur. Mon domaine de recherche, en fait, c'est le travail. Je m'intéresse au travail, aux transformations du travail dans le monde actuel. Depuis le début de ma carrière de chercheur, c'est-à-dire quand j'ai commencé ma thèse en 91 sur la Côte d'Ivoire, et j'ai travaillé donc je m'intéresse toujours au travail et j'essaie de comprendre comment le travail et la question du travail se transforment dans les sociétés actuelles, donc dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la globalisation. Donc à travers les crises économiques et les différentes crises que traversent certains États, donc dans une perspective comparative. Et donc je fais varier, donc au contraire de ce que font beaucoup d'anthropologues qui travaillent toujours sur la même société. Moi, je travaille sur des sociétés très différentes, ce qui me permet, donc avec d'autres collègues qui travaillent encore sur d'autres sociétés, d'avoir une dimension comparative. Donc j'ai commencé mes recherches en fait en Côte d'Ivoire en 1991, donc à travers des séjours en Côte d'Ivoire entre 91 et 95, pardon, dans le cadre de ma thèse. Et donc ensuite j'ai travaillé assez brièvement en fait entre 2000 et 2002, donc j'ai été recruté par le CNRS et j'ai travaillé dans le nord de la France sur une commune qui s'appelle Arnes, qui est dans l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, à côté de Lens, qui est une commune communiste où je me suis intéressé en fait donc au parti communiste et à la municipalité communiste, et en essayant de regarder en fait comment finalement on était passé d'une situation où le travail, si vous voulez, était central, à une situation où c'est la gestion du chômage et du manque de travail qui est devenue centrale. Et puis ensuite, je suis allé avec deux autres collègues travailler en Ouzbékistan entre 2004 et 2006, où donc moi je travaillais toujours sur le travail. J'ai une collègue qui travaillait sur l'Académie des sciences, donc sur nos pairs, les chercheurs de l'Académie des sciences en Ouzbékistan, et un troisième que j'ai pas mis ici qui travaillait lui sur les ONG. D'ailleurs, donc en continuité avec les questions posées par Amnesty International, l'Ouzbékistan est une dictature très très répressive où il y a énormément de prisonniers politiques, et toutes les ONG ont été fermées justement dans cette période entre 2004 et 2006 par le gouvernement. Donc il s'est trouvé que donc je vous ai mis des repères un peu historiques sur la colonne de droite. Donc il s'est trouvé que j'étais en Côte d'Ivoire au moment de la mort d'Oufouette Boigny en 1993. Oufouette Boigny, c'est le premier président de Côte d'Ivoire qui a été président de 1960 à 1993, à sa mort. Et ensuite, donc un an après sa mort, en fait, on a vu apparaître en Côte d'Ivoire la notion d'ivoirité à travers une loi électorale. Et c'est une notion qui a immédiatement en fait cristallisé toutes les tensions politiques qui sont devenues de plus en plus vives jusqu'au déclenchement de la guerre civile en janvier 2002, et donc qui s'est plus ou moins résolu, on va dire, l'année dernière. Lorsque je travaillais sur le bassin minier, donc c'était la période 2000-2002. En avril 2002, Le Pen arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Chirac est élu et Sarkozy devient ministre de l'Intérieur. Et en juin 2002, donc après l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen qui s'est présentée dans la circonscription de la commune que j'étais en train d'étudier. Et lorsque j'ai travaillé sur l'Ouzbékistan, en fait, on s'est aperçu avec mes collègues, enfin, on s'est aperçu en Ouzbékistan, en fait, l'identité nationale est devenue l'idéologie d'État en remplacement du communisme aussitôt après la chute de l'URSS, c'est-à-dire en 1992. Et en mai 2005, il y a eu un mouvement de protestation dans une ville d'Ouzbékistan qui s'appelle Andijan, avec une répression extrêmement féroce qui a fait entre 500 et 1000 morts. Et lorsque je reviens, donc en France, il y a eu entre-temps les émeutes des banlieues, et puis lorsque je reviens en France, après avoir travaillé sur l'Ouzbékistan, eh bien, d'une certaine façon, cette question de l'identité nationale me rattrape, entre guillemets, puisque dans la campagne électorale, puis l'élection présidentielle de 2007, se met en place, en fait, ce thème de l'identité nationale, qui est ensuite institutionnalisé au sein d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc, effectivement, cette question de l'identité nationale, si vous voulez, donc sur les trois sociétés très différentes sur lesquelles j'ai fait des recherches, en fait, la question de l'identité nationale apparaît à un moment donné comme un des axes majeurs, si vous voulez, du politique. Et donc, c'est cet aspect-là qui m'a mené à travailler, en fait, sur cette question. Donc, juste pour... pour terminer les choses, donc moi j'étais président de l'Association française des anthropologues en fait en 2007 et donc au moment de la création du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, il y a eu, enfin je ne sais pas si vous avez suivi un peu, donc il y a eu beaucoup de débats dans les journaux, etc. Il y a eu plusieurs mouvements de chercheurs en fait qui ont protesté contre l'intitulé de ce ministère et notamment la démission de sept historiens qui étaient membres du conseil scientifique de la Cité nationale d'histoire de l'immigration qui était en train de se constituer à Paris. Et nous, en tant qu'Association française des anthropologues, donc dans les débats médiatiques, si vous voulez, dans les débats médiatiques à ce moment-là, il y avait surtout des interventions, en fait, d'historiens du nationalisme, donc qui étaient interviewés par les journaux ou auxquels les journaux donnaient des tribunes, ou bien des historiens et des sociologues de l'immigration. Je reviendrai un peu sur cette question plus tard. Et nous, anthropologues, en fait, on avait un peu une autre voix à faire entendre dans cette question dans ces débats sur identité nationale et l'idée justement que donc si donc comme je vous l'ai dit, on retrouve cette question d'identité nationale qui surgit dans le milieu des années 90, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Ouzbékistan et en France en 2007. Donc en fait, il ne s'agit pas d'un phénomène lié simplement à la société française, mais ou interne à la société française, si vous voulez, mais il s'agit en fait d'une question mondiale, c'est-à-dire que l'on voit apparaître un peu partout dans le monde, dans cette même période, c'est-à-dire les années 90, en gros, des idéologies de l'identité nationale et des États donc qui cherchent à se relégitimer ou à se légitimer sur la question de l'identité nationale. Donc c'est aussi bien par exemple les mouvements de la Shiv Sena, les mouvements hindouistes fondamentalistes hindouistes en Inde par exemple, que en Amérique latine où surgit un peu partout la question de la figure de l'Indien et de l'intégration de cette figure de l'Indien dans la nation, etc. Partout, vous avez en fait des États qui se redéfinissent autour de l'identité nationale. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. On a mis en place un colloque très vite pour réfléchir sur cette question et on a publié un numéro, on a une revue, le Journal des anthropologues, et on a publié un numéro qui s'appelle Identité nationale d'État en 2007. Donc je l'ai apporté à tout hasard pour ceux qui voudraient regarder, jeter un coup d'œil ou le feuilleter. Et je vous ai apporté également le livre qu'on a publié avec mes collègues en 2009 et qui s'appelle « L'Ouzbékistan à l'ère de l'identité nationale, travail, science, ONG », c'est-à-dire les trois champs sur lesquels on a travaillé. Donc, Donc j'ai été amené à essayer de développer, si vous voulez, de comprendre en fait pourquoi cette question de l'identité nationale, pourquoi ça se pose, pourquoi elle se pose dans les années 90, et finalement qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc en tant qu'anthropologue, ma participation, si vous voulez, ma contribution à la connaissance et à la réflexion sur cette question, en fait. Je la vois, donc c'est un peu le sens de ma démarche aujourd'hui et du titre que je propose. Je la vois dans une dimension comparative. Donc, c'est-à-dire, quelle est la réflexion finalement, quelle est la connaissance, qu'est-ce que la connaissance d'autres contextes, de contextes lointains, peut apporter en fait, comme en effet de miroir, si vous voulez, à la compréhension de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Et inversement, éventuellement. Donc, tout d'abord, l'identité nationale, le terme identité nationale, en fait, c'est un vocable qui est tout à fait nouveau. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve. Qui est ancien, si vous voulez, c'est quelque chose qui est nouveau. Et alors, justement, dans tous les débats qu'il y a eu, qui ont eu lieu dans les journaux, etc., ce que je reproche un peu aux historiens qui ont participé à ces débats, quelle que soit finalement leur tendance politique ou idéologique, c'est pas le problème, mais ce que je leur reproche un peu, c'est de mélanger, de faire une confusion souvent entre la nation, l'État-nation, le nationalisme, l'identité nationale. Vous voyez, ce sont des termes différents et ça ne veut pas dire la même chose. Et si aujourd'hui, en fait, ce mot identité nationale a surgit un peu partout dans le monde, donc moi qui ne suis pas un historien mais qui suis un anthropologue et qui travaille sur le présent des sociétés, sur les sociétés contemporaines, la question que je me pose... c'est bien justement qu'est-ce qui différencie la nation, enfin, si vous voulez, les formes plus anciennes de nationalisme, de cette forme nouvelle de nationalisme qui s'exprime à travers ce mot d'identité nationale ou ces notions d'identité nationale. Donc c'est ça que je voudrais essayer d'éclairer en fait aujourd'hui à partir de la comparaison entre ces trois cas qui sont très différents, bien sûr, la Côte d'Ivoire, la France et l'Ouzbékistan. Donc, première constatation, c'est qu'il s'agit en fait d'un phénomène qui apparaît brusquement. En général, enfin en tout cas sur ces trois terrains, on peut dater exactement à partir de quand ce mot apparaît dans le débat politique. Et une fois que le mot est inscrit dans le débat politique, en fait... Il y est comme naturalisé, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il est immédiatement banalisé, comme s'il avait existé depuis toujours. Et donc c'est bien le sens de, si vous voulez, quand je vous dis que les historiens avaient tendance à faire naître l'identité nationale à la Révolution française. D'accord ? La Révolution française, en fait, c'est la création de l'État-nation en France. Mais l'État-nation, ce n'est pas l'identité nationale. Il y a eu différentes formes de nationalisme qui se sont succédées au cours de l'histoire française, à chaque période, mais le mot identité nationale n'apparaît justement que très récemment. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est-à-dire, avant décembre 1994, personne ne parlait, personne ne... Enfin, ce mot ivoirité n'existait pas. Il existait un peu, il y a bien quelques intellectuels ou quelques hommes politiques qui l'avaient utilisé par-ci, par-là à l'occasion. Mais ce n'est pas un mot qui était utilisé fréquemment. Tout d'un coup, il apparaît. En fait, il apparaît au terme d'une loi, je vais vous expliquer. Et en fait, ce mot a été immédiatement banalisé et immédiatement devenu, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, véritablement le nœud de tension, l'abcès de fixation, en fait, des conflits politiques en Côte d'Ivoire. Alors juste pour revenir un peu donc sur cette histoire, donc en 1990, on a en Côte d'Ivoire un retour au multipartisme avec pour la première fois des élections multipartites donc en Côte d'Ivoire et la constitution d'un parti politique d'opposition qui s'appelle le FPI, qui est le parti de Laurent Gbagbo, qui dénonçait deux choses en fait au cours des élections de 90: le vote des étrangers, en disant que le président Houphouët-Boigny avait gagné les élections à cause du vote des étrangers africains qui sont très nombreux en Côte d'Ivoire, et ensuite lorsqu'Alassane Ouattara a été nommé premier ministre, le FPI s'est mis à le dénoncer en fait comme n'étant pas ivoirien mais comme étant burkinabé. Donc en 93, le décès d'Houphouët-Boigny. Et en 94, donc en fait, l'ancien parti unique s'est scindé en deux avec deux concurrents, le président de la République qui a succédé à Houphouët-Boigny, qui était concurrent à Alassane Ouattara, l'ancien premier ministre, qui a fondé son propre parti. Et puis, donc, la troisième partie en concurrence, en compétition pour les élections, c'était le FPI. Et donc, le président Conan Bédié a fait, en fait, en décembre 1994, avait promulgué un nouveau code électoral, en fait, où il supprime le vote des étrangers africains. Donc, il supprime un des arguments de dénonciation, si vous voulez, de l'opposition. Mais il instaure une autre condition, qui est que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être né ivoirien de père et de mère eux-mêmes nés ivoiriens. Et c'est cette question, c'est ça qui a été désigné comme la clause d'ivoirité et qui a mis le feu aux poudres. Donc, pourquoi ? Parce que Alassane Ouattara était supposé être burkinabé et, en fait, cette clause l'excluait de la compétition à l'élection présidentielle. Donc, qu'est-ce qu'on constate à partir de ce moment-là ? Donc, c'est que donc l'ivoirité est devenue une question scientifique en quelque sorte, c'est-à-dire que le monde intellectuel s'est emparé de la question avec des anthropologues, des sociologues, des historiens qui ont cherché à démontrer justement l'ivoirité, etc. Enfin, donc à donner un contenu scientifique à l'ivoirité. Et d'autre part, donc les débats politiques se sont complètement enlisés autour de cette question d'ivoirité, qui sont devenus de plus en plus violents. Alassane Ouattara a été écarté des élections et désigné comme de nationalité douteuse par la justice ivoirienne. Et donc en décembre 99, il y a eu un coup d'État. En 2000, des élections où Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Et en janvier 2002, donc le déclenchement de la guerre. Et ce qu'on constate dans toute cette guerre, enfin dans le déroulement de cette guerre, si vous voulez, c'est que les forces, les dites les rebelles, celles qui ont pris les armes en fait dans le nord ou dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en fait se désignaient comme forces patriotiques. De même que les milices du président Gbagbo se désignaient comme étant les jeunes patriotes. Donc c'était en quelque sorte une guerre des patriotismes. Voilà, et donc je vous ai rappelé un petit peu le calendrier. Donc les élections ont été enfin organisées en 2010. Laurent Gbagbo, comme vous le savez, a refusé de reconnaître sa défaite, et finalement Ouattara a été installé au pouvoir grâce à une intervention militaire française. Donc je vous rappelle ça rapidement, on y reviendra un peu et je vous donnerai des précisions si vous voulez après. Maintenant, l'Ouzbékistan. Donc là aussi, le phénomène est encore plus brusque en Ouzbékistan, puisque l'Ouzbékistan, c'est une ancienne république de l'URSS. Hein, et donc, dans le cadre de l'URSS, en 1990, il y a eu un référendum sur l'indépendance de l'Ouzbékistan, où la majorité de la population a voté non. En 90, la même année, enfin la même élection d'ailleurs, Islam Karimov, qui était le secrétaire du Parti communiste d'Ouzbékistan, de la République soviétique d'Ouzbékistan, est devenu président de la République soviétique d'Ouzbékistan, donc dans le cadre de l'URSS. En 91, c'est la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie qui ont dissous l'URSS en se déclarant indépendante, et donc l'Ouzbékistan, comme toutes les anciennes républiques soviétiques, a bien été forcé de se déclarer, de proclamer son indépendance. alors qu'elle avait été refusée par référendum un an auparavant. Donc Karimov est devenu le président de la République et évidemment, le communisme ayant disparu de lui-même, eh bien, il a fallu trouver une autre source de légitimité, une justification à l'État. Et en fait, donc l'ex-secrétaire du Parti communiste d'Ouzbékistan est devenu immédiatement en fait le nouveau champion de l'identité nationale ouzbèque, donc en remplaçant un discours, le discours communiste, par un discours nationaliste, donc fondé sur l'idée d'une identité nationale ouzbèque. Donc, d'où un processus d'ouzbékisation de la société, de l'État et de la société, et un régime politique qui n'a pas cessé de se durcir, de devenir de plus en plus autoritaire. Et dès 1993, l'opposition qui avait été finalement autorisée dans le cadre de l'URSS, dans la période de la perestroïka, cette opposition est contrainte à l'exil dès 1993. Ce régime politique, donc pour le décrire très rapidement, il associe en fait un culte de la personnalité, j'allais dire presque à l'ancienne, selon comme à l'époque du président Mao, si vous voulez, un culte de la personnalité où Karimov est bien sûr désigné comme le père de l'indépendance. Un culte donc de l'État indépendant, l'État qui est qualifié de démocrate. Un culte de l'identité nationale avec par exemple l'organisation dans les années 2000 d'une journée par semaine à l'école consacrée à la spiritualité ouzbèque, à la civilisation ouzbèque, etc. Et puis une rhétorique officielle qui est fondée sur la grandeur du passé, donc un passé réinventé, sur les réalisations de l'indépendance et sur l'avenir radieux que le président promet au pays. Et en France, c'est un peu différent. Donc, le vocable identité nationale apparaît en 2007. En fait, c'est une notion qui a été inventée par les intellectuels dans les cercles intellectuels du Front National dans les années 80. C'est une notion qui n'existait pas avant, donc qui apparaît dans les cercles intellectuels du Front National dans les années 80. Elle qui est très peu reprise dans les partis de droite avant justement 2007. Et en 1980, on a par contre, ce que je voudrais souligner, c'est-à-dire un peu le parallèle entre les deux, sans faire d'amalgame, dans les années 80, vous avez aussi un nouveau discours qu'on peut qualifier de nationaliste qui se met en place, cette fois par la gauche, en fait, à travers l'invention de notions nouvelles, qui sont les notions d'intégration et de valeurs républicaines. Et en 2007, en fait, la notion d'identité nationale, telle que la promeut en fait Nicolas Sarkozy, on peut la qualifier d'une espèce de synthèse. C'est-à-dire lorsque, par exemple, les critiques de gauche vont dire à Nicolas Sarkozy « Vous en revenez à une vision raciale de la nation », Sarkozy rétorque « Non, non, pas du tout. L'identité nationale, ce n'est pas du tout la race. L'identité nationale, ce sont les valeurs républicaines. » Donc vous avez en fait une synthèse qu'opère Nicolas Sarkozy entre donc une notion qui a été inventée à l'extrême droite, et bon, dans un but tout à fait électoraliste, bien sûr, une notion d'extrême droite, et en fait des notions qui étaient auparavant en fait plutôt portées par la gauche et qui avaient été inventées par la gauche dans les années 80. Donc d'où ce ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, auquel, donc vous savez que Nicolas Sarkozy fixait des objectifs à ses ministres, et en fait ce ministère là son seul objectif, c'est-à-dire l'objectif avec lequel on évalue l'activité du ministre, en fait, ce seul objectif donc est libellé en termes de nombre d'expulsions, soit 25 000, je crois, la première année, 28 000 la deuxième année, etc. Et une des missions attribuées à ce ministère, c'est de promouvoir l'identité nationale, mais il n'y a aucune définition, en fait, de l'identité nationale ni des moyens de la promouvoir dans les textes officiels. En fait, ce sont les débats médiatiques qui vont donner un semblant de contenu à cette notion d'identité nationale. avec la confusion la plus totale. C'est-à-dire que si vous regardez l'ensemble des débats, des interventions des historiens, des sociologues, des intellectuels divers, etc., ou des hommes politiques ou d'autres personnages à ces débats, vous voyez que, en fait, l'identité nationale est une notion parfaitement indéfinissable, donc qui est confondue tour à tour avec l'idée de nation ou avec celle d'État-nation, ou tour à tour associée à la baguette et au saucisson, au vin rouge et au béret, ou bien etc. Et lorsque le ministère ordonne en fait un débat sur l'identité nationale en 2009, en fait, qui est quasiment un échec. Enfin, cette opération marche pas très bien. Mais en fait, ce qu'on voit très très clairement, en fait, c'est que les débats, à la fois dans les journaux et puis les débats qui sont organisés par les préfets, etc., ces débats-là ciblent systématiquement en fait l'islam comme étant extérieur à l'identité nationale. D'où aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une banalisation en fait de la notion de valeur républicaine et notamment de l'une de ces valeurs, la laïcité, qui est devenue en fait la plus évoquée, la plus citée, notamment évidemment face à la question de l'islam, et que ce sont tous les partis aujourd'hui en fait qui brandissent cette notion de valeur républicaine, y compris le FN. Non seulement les valeurs républicaines, mais aussi la laïcité. Donc ça, c'était sur la première chose, enfin pour vous remettre un peu les choses en perspective dans l'histoire politique en fait de chacun des États, et donc montrer que donc ce qui me paraît tout à fait caractéristique, c'est que c'est à un moment donné, hein, c'est une notion, c'est quelque chose, une construction, on va dire politique, ou une construction sociale historique en fait, et que on peut montrer à quel moment en fait apparaissent les idées, on va dire, les qui sont associées à l'identité nationale. Et chaque fois, donc j'ai oublié de le souligner, chaque fois vous avez un contenu différent, c'est-à-dire ce qui est défini ou ce qui est globalement, enfin la notion d'ivoirité n'est pas la même que la notion d'identité nationale en Ouzbékistan, et c'est pas le même contenu, si vous voulez, que la notion d'identité nationale associée aux valeurs républicaines en France. Le second aspect qui me paraît important, en fait, c'est que donc celle-ci, si l'identité nationale apparaît brusquement, c'est que, en quelque sorte, on assiste à quelque part à un retournement. Et ce retournement, il se construit autour de l'idée d'autochtonie. En fait, c'est l'invention d'une idée de l'autochtonie. De l'autochtonie, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'État va chercher, donc en Côte d'Ivoire, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Ouzbékistan, je vais revenir sur la France après, et aussi bien on peut regarder ça donc en Inde, en Amérique latine, etc. C'est l'idée de l'autochtonie, c'est-à-dire que l'État va se redéfinir autour d'une population autochtone, et ce qui veut dire, s'il se redéfinit autour d'une population autochtone, c'est-à-dire qu'il va se redéfinir comme devant protéger en fait cette autochtonie et cette identité nationale, si vous voulez, l'identité nationale des autochtones, contre des menaces qui sont bien sûr des menaces extérieures. En Côte d'Ivoire, donc il faut revenir un peu sur l'histoire politique. Je suis obligé de rentrer un peu dans les détails. J'espère que c'est pas trop confus pour vous, que c'est suffisamment clair. Donc en Côte d'Ivoire, en fait, qu'est-ce qu'on constate ? En 1960, au moment de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, donc où Foy-el-Boigny est président, c'est un système de parti unique qui se met en place avec le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays, on peut dire que c'est quasiment le pays qui, en Afrique subsaharienne, incarne le plus ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire que c'est le pays qui va chercher à diminuer au maximum la rupture que représente la colonisation et à se mettre véritablement dans la, dans la, dans l'héritage en fait de ce qu'a construit en fait le colonialisme. Donc c'est un fidèle allié de la France et des États-Unis au niveau géopolitique, donc en Afrique. Au niveau économique, en fait, donc si la Côte d'Ivoire choisit de rester accrochée au camp capitaliste, à la différence d'autres États africains qui s'orientent vers le socialisme, on n'a en fait pas du tout une économie libérale. Évidemment, en 1960, on n'est pas dans une période en fait idéologique libérale. Donc la sorte d'économie qui se construit donc autour de l'idée de développement, etc., c'est une alliance en fait entre un capitalisme d'État et le capitalisme étranger. Et le président Houphouët-Boigny dit clairement au début des années 60 qu'il ne veut pas d'un capitalisme autochtone ivoirien, qu'il veut que le développement repose simplement sur le capitalisme d'État et le capitalisme étranger. Donc on a une économie en essor rapide, en fait liée à l'économie de cacao et de café, qui repose en fait sur une arrivée massive de main-d'œuvre étrangère. Donc dans les années 60, comme auparavant, comme à l'époque coloniale, ce développement, ce qu'on appelait la mise en valeur à l'époque coloniale, ce développement de l'économie ivoirienne repose sur l'apport en fait non seulement de capitaux étrangers mais de main-d'œuvre étrangère. Et donc cette économie de plantation, elle se fait dans les zones forestières au sud de la Côte d'Ivoire en fait, et elle repose sur une dynamique de migration des planteurs en fait qui viennent du centre ou du nord de la Côte d'Ivoire et puis des pays voisins, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, etc. Donc la population étrangère est très importante en Côte d'Ivoire, d'autant plus que les étrangers qui sont installés depuis des générations et des générations ne prennent pas la nationalité ivoirienne en fait. Ils demeurent de nationalité par exemple burkinabé, etc., puisque ces migrations ont commencé dès les années 20 en fait, c'est-à-dire quand s'est mis en place l'économie de plantation à l'époque coloniale. En fait, l'administration coloniale a organisé un apport de main-d'œuvre en provenance du Sahel pour pouvoir alimenter en main-d'œuvre les plantations de cacao et de café, ou bien d'EVA, de palmiers, etc. Et un collègue a cette expression que l'État ivoirien s'est bâti comme un État allochtone. C'est-à-dire que l'État n'entend pas du tout, l'État indépendant, n'entend pas du tout représenter les intérêts d'une population autochtone, mais au contraire favorise, en fait, favorise, si vous voulez, l'installation d'étrangers, etc., favorise une alliance économique avec le capitalisme étranger. Il favorise les populations allochtones dans l'économie de plantation. Il favorise les planteurs qui viennent d'ailleurs par rapport aux populations autochtones qui sont très minoritaires. Bref, on a des tensions xénophobes, des tensions qui apparaissent dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, si vous voulez. Mais d'une certaine façon, l'État se positionne dans une alliance avec, entre guillemets, l'étranger. Et il est dénoncé d'ailleurs par son opposition comme étant le complice ou en connivence avec des intérêts étrangers. Ce qui se passe à partir des années 90, et notamment de la question de l'ivoirité, c'est qu'on a un total retournement. C'est-à-dire que, et c'est ce que moi j'appelle un processus d'autochtonisation de l'État, c'est-à-dire que vous avez l'invention d'une idée de l'autochtonie, c'est-à-dire né ivoirien, de père et de mère, eux-mêmes nés ivoiriens, c'est bien la formulation d'une sorte d'autochtonie, si vous voulez, qui devient d'une autochtonie ivoirienne, qui auparavant n'était pas du tout formulée et qui devient la condition en fait pour accéder à la fonction de représentation de l'État, si vous voulez. Donc symboliquement, l'État devient autochtone. Et dans ce processus, une question qui est posée par l'opposition, le FPI, immédiatement, à partir du moment où le président Conan Bédié promulgue sa nouvelle loi électorale, Le FPI dit, d'accord, vous renoncez à faire voter les étrangers qui votaient pour vous, mais vous avez distribué des cartes d'identité ivoirienne à des étrangers. Donc il faut vérifier, pour faire la liste des électeurs, il faut vérifier qui a légitimement sa carte d'identité ivoirienne et qui l'a reçue indûment. Donc c'est le processus qu'ils appellent qui s'est appelé en Côte d'Ivoire le processus d'identification, c'est-à-dire de vérification de la nationalité des Ivoiriens. Mais comment voulez-vous prouver que vous êtes bien légitimement de nationalité ivoirienne ? Vous pouvez le prouver en montrant que vous êtes rattaché à une généalogie, à une famille précise qui se rattache à un village précis et que donc vos ancêtres sont bien sur le territoire national, etc. Donc c'est en quelque sorte prouver qu'on est né ivoirien de père et de mère eux-mêmes né ivoirien. Donc vous avez une espèce de métastase en fait de cette notion d'ivoirité qui, à partir d'une formulation sur une clause de conditionnalité à la présidence de la République, enfin d'accès à la présidence de la République, va se diffuser en fait dans tout le corps social. Et du coup, va remettre en question en fait la légitimité de l'appartenance nationale de fractions entières de la population. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres. Enfin, c'est une des choses. Il n'y a pas, c'est pas la seule. Hein. Il y a beaucoup de évidemment de raisons d'explications à la guerre. Mais c'est une des choses qui très directement, en fait, va mettre le feu aux poudres et va faire que des gens vont prendre les armes pour se révolter contre l'État. Donc, on est en fait, on est dans un processus en fait où l'État l'État va se redéfinir autour d'une notion d'autochtonie. Donc l'État incarne maintenant la défense des intérêts autochtones contre l'étranger, et l'étranger est présenté comme une menace, et l'accusation de connivence avec l'étranger va être rejetée sur une seule des parties en conflit, c'est-à-dire le personnage d'Alassane Ouattara, qui est musulman, donc qui est assimilé, si vous voulez, qui est considéré comme étranger, qui est assimilé comme en tant que musulman, il est supposé représenter les gens du Nord qui sont musulmans, qui sont eux-mêmes assimilés à des étrangers parce qu'ils sont supposés venir du Mali ou de Guinée, etc., etc. Et Alassane Ouattara, justement, est soutenu par les institutions financières internationales, par les États occidentaux, par les autres États africains. C'est-à-dire qu'il est soutenu par l'étranger. Et vous avez une espèce d'opposition qui se met en place et qui va se creuser de plus en plus. C'est-à-dire une logique d'État assiégé, si vous voulez, qui va faire et qui va aboutir, qui va se creuser de plus en plus avec Gbagbo et qui véritablement met en scène donc un conflit entre la défense de l'autochtonie, si vous voulez, contre une usurpation par les étrangers, si vous voulez. Et c'est toujours, depuis que Ouattara a pris le pouvoir, avec l'aide d'une intervention militaire française, c'est bien sûr toujours le discours des partisans de Laurent Gbagbo. En Ouzbékistan, vous avez également donc ce processus d'invention de l'autochtonie à partir de 1992 qui se met en place. Donc je vous ai mis ici très rapidement un rappel de ce qu'on appelle l'invention de la nation ouzbèque, qui est un processus donc qui a été mis en place en fait par la politique des nationalités de Staline dans les années 20. Avant la colonisation russe, il n'existait pas bien sûr d'État ouzbèque. Le terme ouzbek en tant qu'identité, enfin identifié à ce qu'on appelle le peuple ouzbek aujourd'hui, n'existait pas. D'accord ? Vous aviez en fait ce qu'on appelle des khanats, trois principautés à la place du territoire de l'Ouzbékistan actuel. Et avant encore, en fait, l'Ouzbékistan a toujours été au centre de différents empires qui se sont succédés, d'influence soit perse, soit des empires venus, fondés par Gengis Khan et Tamerlan et les descendants de Tamerlan. Et donc vous aviez grosso modo en fait un territoire où vous aviez des rois ou des khans qui étaient turcs, le pouvoir était exercé par des turcophones, et la langue de culture c'était la langue perse, qui était aussi la langue qui véhiculait en fait l'islam. Donc vous n'aviez pas de différence significative entre turcophone et persanophone, mais la différence significative c'était entre citadins, enfin les citadins ou les sédentaires, et puis les populations nomades dans les steppes environnantes. Donc dans les années 20, la politique des nationalités de Staline, elle opère ce qui s'est produit en fait en Europe au 19e siècle ou au début du 20e siècle, c'est-à-dire que ce sont les savants qui vont identifier en fait les nations, qui vont être les porteurs du nationalisme, et qui vont identifier en fait les nations autour de la langue, c'est-à-dire de la codification d'une langue, autour de la mise en évidence d'un folklore, de traditions, etc. Particulier en fait à cette nation. Donc c'est ce qu'on appelle le processus d'invention des nations. Qui s'est produit simplement dans les années 20 dans cette partie d'Asie centrale du fait de la politique des nationalités de Staline, avec cette particularité que ce sont les savants russes, c'est-à-dire étrangers au peuple ouzbek, qui ont créé le peuple ouzbek, si vous voulez, et avec l'attribution donc à certaines des nationalités, donc une différenciation des turcophones et des persanophones. Donc les turcophones, notamment les ouzbeks, et les persanophones, ce sont les tadjiks. Et les villes historiques de Samarkand et de Boukhara, par exemple, qui sont en Ouzbékistan, sont des villes à majorité persanophone, puisque ce sont les villes de culture. Ce sont des villes à majorité persanophone, c'est-à-dire habitées aujourd'hui majoritairement par des Tadjiks dans le territoire indépendant de l'Ouzbékistan. Bref, donc vous avez en fait une différenciation des différentes populations avec l'attribution de leurs caractéristiques et pour certaines d'entre elles, l'attribution donc d'un territoire national et d'institutions politiques. Et donc la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan est créée en 1924. En 1992, avec donc l'indépendance, en fait, et la promotion de l'identité nationale comme nouvelle idéologie d'État, donc c'est l'identité nationale ouzbek, d'accord. Vous avez à peu près 20% de la population qui n'est pas ouzbek, mais qui peut être kazakh, kirghiz, tadjik, russe, ukrainien, des Allemands, des Juifs, des Coréens, etc. Donc, et c'est bien l'identité nationale ouzbek en fait qui est mise en avant, avec en fait donc l'idéologie, enfin avec le comment dire, cette idéologie, elle doit être construite. Donc cette idéologie d'État, elle reste sur le modèle soviétique, si vous voulez, où vous avez une idéologie d'État qui doit guider l'action en fait du gouvernement, l'action de l'État. Et cette idéologie, donc ça, elle doit être produite scientifiquement, donc par les scientifiques sous l'égide de la philosophie. Donc l'ensemble des archéologues, des historiens, des ethnographes, etc., sont invités par le président Karimov à produire en fait les connaissances nécessaires à l'élaboration de cette idéologie de l'identité nationale. Et donc vous avez de ce fait en fait un mouvement de réécriture de l'histoire, hein, purement et simplement, donc de réécriture de l'histoire autour de l'idée d'une autochtonie ouzbek, c'est-à-dire qu'il faut prouver absolument que le peuple ouzbek a toujours existé, qu'il est là sur le territoire de l'Ouzbékistan depuis la nuit des temps, et il y a une nouvelle discipline scientifique qui apparaît, qui s'appelle l'étaticité du peuple ouzbek, où il faut montrer que non seulement le peuple ouzbek a toujours existé, mais que l'État ouzbek lui-même a toujours existé, ce qui est bien sûr un pur mensonge, puisque il n'existait pas. Enfin, c'est une création de l'Union soviétique. Donc le but, bien sûr, là aussi, donc comme en Côte d'Ivoire, c'est un phénomène parallèle, c'est pour ça que je parle de retournement. Vous avez, en fait, à partir de l'indépendance en 92, l'État va chercher à s'appuyer, en fait, à appuyer son existence, à justifier son existence, en fait, sur la base d'une identité autochtone qui est une invention de toute pièce, comme en Côte d'Ivoire. Troisième chapitre. Il faut que je contrôle le temps, excusez-moi. Troisième chapitre, donc, c'est l'idée de désagrégation de la société. Donc en Côte d'Ivoire, c'est là où le phénomène de ce que j'appelle désagrégation de la société est le plus marquant, puisqu'elle s'est traduite par une guerre qui a divisé le territoire de la Côte d'Ivoire en plus pendant presque 10 ans en deux morceaux, entre le nord et le sud. Et donc l'ivoirité, donc il y a évidemment une guerre, c'est pas quelque chose de simple, enfin le déclenchement d'une guerre, surtout d'une guerre civile, une guerre interne à un État, c'est toujours un processus complexe et il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu pour expliquer ce qui s'est passé. Mais on peut dire que l'ivoirité est directement responsable du déclenchement du conflit. Donc non seulement à cause du problème, si vous voulez, de l'empêchement de la candidature d'Alassane Ouattara, non seulement donc parce qu'il y avait des tensions autour des étrangers, donc qui se sont tensions qui se sont accrues, mais qui sont récurrentes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez aussi ce phénomène donc qui apparaît dans les années 90 et qui va devenir véritablement marquant, de désignation des musulmans comme étrangers. C'est-à-dire les musulmans, ce qu'on appelle les Dioulas en Côte d'Ivoire. Sont supposés originaires du Nord, originaires du Mali. En fait, Dioula, ça veut dire commerçant. Donc, c'est un groupe ethnique, si vous voulez, qui est présent, en fait, dans tous les centres urbains depuis très longtemps. Mais ils sont assimilés à des gens du Nord et supposés, donc, venir du Mali. Et de plus en plus, on va les désigner, en fait, comme des étrangers, qu'ils soient effectivement étrangers ou non. Donc, il y a une confusion qui s'opère. Et puis, il y a les tensions autour de le processus d'identification que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de dire, bon, on va vérifier la nationalité ivoirienne de chaque citoyen, mais qui est donc a le droit de légitimement avoir la nationalité ivoirienne et qui est illégitime. Donc c'est un problème qui, bien sûr, ne peut pas être résolu. Et d'ailleurs, ce problème n'est toujours pas résolu. C'est-à-dire que il a servi de prétexte, bien sûr, Gbagbo voulait pas lâcher le pouvoir. Donc, cette question de vérifier le corps électoral a servi de prétexte au report continuel des élections jusqu'à 2010, c'est-à-dire jusqu'au moment où Gbagbo n'a pas pu faire autrement que d'organiser ces élections. Mais en fait, ce processus dit d'identification n'était toujours pas terminé, c'est-à-dire que la vérification du corps électoral n'était toujours pas faite. Donc, cette question véritablement de décider de différencier, si vous voulez, qui est ivoirien, qui est conforme à l'identité nationale, si vous voulez, et qui ne l'est pas, en fait, c'est une question véritablement insoluble et qui, évidemment, est éminemment conflictuelle. Puisque vous pouvez pas enlever leur nationalité, leur citoyenneté à des gens sans que ce soit, bien sûr, conflictuel. Donc la conclusion, si vous voulez, c'est que non seulement on peut pas, il est impossible de circonscrire en fait une population qu'on pourrait identifier à l'identité nationale, quelle que soit la définition qu'on lui donne, mais en plus, en fait, bien sûr, ce processus d'identification, en fait, il repose sur un réel processus d'exclusion. C'est-à-dire que lorsque l'on postule en fait une identité nationale, eh bien forcément on exclut des gens qui ne sont pas dans cette identité nationale. Et donc non seulement on exclut les étrangers, mais en fait la délimitation entre nationaux et étrangers, c'est-à-dire qui est légitimement national et qui ne l'est pas, qui est étranger, en fait cette question, elle est extrêmement, elle est en fait insoluble. Et cette la déstabilisation, si vous voulez, l'exclusion, le refoulement de la population étrangère a pour effet, bien sûr, non seulement de déstabiliser cette population étrangère, mais aussi de déstabiliser, en fait, de proche en proche, des pans entiers de la population. C'est-à-dire tous ceux qui, d'une certaine façon, ont une origine étrangère, ou tous ceux qui se sentent mis en cause, comme ici, par exemple, les musulmans dans le nord de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont mis en cause ou qui se sentent mis en cause par le fait que on va redéfinir une identité nationale dont on ne sait pas si dont on les soupçonne de ne pas vraiment faire partie, ou dont on va plus ou moins en fait les refouler, indépendamment de la carte nationale d'identité qu'ils ont. Évidemment, vous voyez bien que ce processus, vous avez tout à fait un processus similaire en France autour de la question de ce qu'on appelle aujourd'hui issus de l'immigration. En Ouzbékistan, donc vous avez un processus, ce processus d'ouzbékisation qui va en fait placer la population non ouzbèque, qui représente à peu près 20% de la population, dans la position de minorité nationale. Minorité nationale, en fait, dont la légitimité, par exemple, à occuper des postes dans la fonction publique ou même dans les entreprises, etc. Donc, leur légitimité, en fait, va être remise en cause. Donc, ils vont se sentir comme des citoyens, si vous voulez, de seconde zone par rapport à ceux qui sont de nationalité ouzbèque. Donc, ici, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, ici, c'est le fonctionnement particulier du système soviétique, qui est à peu près le même qui était en place, par exemple, en ex-Yougoslavie. D'accord ? Où vous aviez une citoyenneté qui englobait, en fait, une population avec des nationalités différentes. Donc ici, les nationalités, c'est par exemple ouzbèque, russe, tadjik, kazakh, etc. Et donc, elles sont inscrites dans le passeport. Donc, quelqu'un peut avoir... Enfin, il y a une double inscription dans le passeport, si vous voulez, la citoyenneté de l'Ouzbékistan et puis la nationalité qui peut être différente de nationalité ouzbèque. Donc... ces populations non ouzbèques, en fait, sont remises en cause. Et vous avez aussi tout un problème posé par l'ouzbékisation, qui est que, par exemple, les classes éduquées, les classes éduquées à l'époque soviétique, elles maîtrisent mieux la langue russe, et le président Karimov lui-même, il ne parlait pas ouzbek au moment de l'indépendance, il parlait très mal ouzbek au moment de l'indépendance. Et toutes ces classes éduquées, en fait, intellectuelles ou politiques, etc., elles maîtrisent pas bien nécessairement la langue ouzbek. Et comme il y a eu une latinisation de l'alphabet, enfin de la langue qui s'écrit maintenant en alphabet latin, alors qu'avant c'était le cyrillique, en fait, toutes les classes éduquées ne maîtrisent plus du tout l'écriture de la langue, ce qui pose un énorme problème. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a rien que de ce fait-là, si vous voulez, une déstabilisation même de toutes les classes éduquées, en fait, et d'une certaine façon, l'État même est mis en contradiction dans ce processus d'ouzbékisation. Le second problème, c'est que, là encore, on ne peut pas délimiter, en fait, qui est véritablement ouzbek et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que même si vous avez une personne qui, dans son passeport, s'est marqué de nationalité ouzbek, ou bien kirghize, ou bien kazakh, par exemple, en fait, c'est extrêmement difficile de démêler parce que chacun, notamment l'URSS, avait encouragé, bien sûr, avait provoqué un énorme brassage de population. Donc, j'ai pas le temps de vous retracer cette historique, mais un énorme brassage de population, et avait encouragé, bien sûr, les mariages mixtes au sein de ces élites. Et les élites de l'URSS, c'était les classes intellectuelles et les classes, sans parler de la classe politique, enfin de la caste dirigeante, si vous voulez, du Parti communiste, mais aussi les classes intellectuelles et les classes ouvrières. Donc vous avez bien sûr un énorme brassage de population, beaucoup de mariages mixtes, et les gens en sont venus à cacher, par exemple, qu'ils ont une origine qui n'est pas ouzbèque, etc. Enfin, c'est-à-dire que l'ensemble, c'est non seulement les minorités nationales, si vous voulez, enfin les non-ouzbèques qui sont placés dans la situation inconfortable et illégitime de minorité nationale, mais c'est en fait un pan entier de la société qui est déstabilisé de ce fait même. Enfin, donc la dernière chose sur laquelle je voudrais souligner, c'est que à travers ces processus, qui sont des processus politiques, bien sûr, en fait, ce qui est redéfini, c'est à la fois la citoyenneté, c'est-à-dire la nature de la citoyenneté, et puis la légitimité, en fait, de l'État. Donc la légitimité de l'État, je vous l'ai dit, l'État va tendre à se refonder, en fait, sur l'idée d'autochtonie, sur l'idée d'une défense d'une autochtonie menacée ou d'une identité nationale menacée par opposition, en fait, avec les formes antérieures de légitimation de l'État. En Ouzbékistan, la nationalité n'existait, dans le cadre de l'URSS, bien sûr, la nationalité n'existait que dans la mesure où elle était subsumée, en fait, englobée par la citoyenneté soviétique. Donc, ce qui définissait, donc, la nationalité n'avait aucune importance, en quelque sorte, enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais ce qui avait surtout de l'importance, ce qui définissait en fait le rapport des citoyens à l'État, eh bien, c'est l'appartenance politique, c'est-à-dire c'est l'adhésion ou non en fait au projet de l'État qui était défini par idéologiquement par le communisme et par un projet de modernisation de la société et de transformation de la société. Dans l'Ouzbékistan indépendant, l'État ne se définit plus en fait que par son identification à la population autochtone, et il promet un avenir radieux un peu en forme de cul-de-sac, parce qu'on est quand même dans un État qui est en fait totalement ruiné par la chute de l'URSS. Donc il promet un avenir radieux qui est fondé en fait simplement sur la grandeur de l'État, sur la gloire du passé et sur une identité nationale rayonnante dans un pays où personne ne sait même où il est. J'aurais dû vous mettre une carte d'ailleurs peut-être. Et en Côte d'Ivoire, donc avant 1990, on a à peu près le même processus, c'est-à-dire que, et c'est là où, si vous voulez, les nationalismes des années 50-60, c'est-à-dire les nationalismes du tiers-monde dans les années de la décolonisation ou qui suivent la décolonisation, ne sont plus du tout les mêmes que les nationalismes aujourd'hui. Donc, avant 1990, l'État se définissait en fait par rapport au projet de développement qu'il avait hérité en fait de la dernière époque coloniale. Donc, il se définissait par rapport au rôle qu'il s'attribuait de développement de l'économie et de modernisation, en fait, de la société. Donc, la citoyenneté était définie dans ce cadre, en fait, par la participation au développement, et c'est-à-dire, ici, l'État encourageait, en fait, les personnes, qu'elles soient ivoiriennes ou de nationalité étrangère, elle encourageait les personnes à participer en fait à l'économie de plantation, et c'est bien plutôt ça qui définissait la citoyenneté que la nationalité. Celle-ci n'avait guère d'importance, et d'ailleurs il y avait souvent des ministres non ivoiriens au gouvernement sans que ça pose aucun problème à personne. Évidemment, dans le cadre du parti unique, qu'on fasse voter les étrangers africains n'était pas du tout un enjeu, d'accord ? Donc la nationalité en fait n'avait pas tellement d'importance en Côte d'Ivoire avant les années 90. Avec l'ivoirité, évidemment, c'est une toute autre chose, c'est-à-dire que l'État va se définir de plus en plus par son identification avec la population autochtone, et donc, si vous voulez, il y a donc d'une certaine façon, là où auparavant ce qui définissait la citoyenneté c'était plus la participation en fait au développement, au projet de développement, c'est-à-dire dans le cadre d'un État qui était fier d'être, de se considérer comme le plus développé en fait d'Afrique. D'accord ? Les Ivoiriens avaient cette image d'eux-mêmes. Et c'est ça qui nourrissait une fierté à l'égard des pays voisins, le Burkina, le Mali, etc., qui étaient considérés comme plus sous-développés que la Côte d'Ivoire. À partir du moment où cette économie entre en crise dans les années 80 et où l'État est totalement étranglé par les ajustements structurels dans les années 80, eh bien vous avez en fait une tentative, l'ivoirité intervient comme une tentative de détacher l'image de la nation, l'image de soi, si vous voulez, deux, d'une performance économique qui est devenue négative, donc qui n'est plus source de fierté, mais qui va être au contraire source de honte. En France, donc, vous avez un phénomène donc, qui peut se lire d'une manière un peu, enfin, autant vous avez une très grande clarté en fait dans les processus que j'ai essayé de vous montrer là, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils apparaissent très clairement, très brusquement, etc. En Côte d'Ivoire aussi bien qu'en Ouzbékistan. En France, la lecture est un peu plus compliquée, mais disons que globalement. Dans le cadre des années 80 et 90, donc 80, c'est-à-dire quand la gauche est au pouvoir, puis ensuite dans le cadre des alternances droite-gauche, en fait, on a progressivement l'adoption de politiques libérales, en fait, dans le cadre de l'Union européenne. C'est dans ce cadre-là, on assiste dans les mêmes années à donc la fermeture des frontières en 1974, enfin fermeture des frontières, c'est-à-dire l'arrêt de l'immigration organisée, c'est-à-dire de l'importation de main-d'œuvre, et donc vous avez de plus en plus en fait une politisation des questions de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire une multiplication des lois sur l'immigration avec un durcissement continu en fait de ces lois. Une immigration qui est de plus en plus désignée comme indésirable et problématique, et dans ces mêmes années, 80, en fait, l'intégration, lorsque je disais que la gauche invente le terme d'intégration, c'est que l'intégration, en fait, désigne, elle n'apparaît, ce mot n'apparaît comme notion, en fait, comme notion politique, qu'à partir du moment où il va désigner un problème. D'accord ? C'est-à-dire que l'immigration. Et ensuite, la place, enfin, ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire que finalement, ce qui est remis en cause, en question, c'est la place, non seulement des immigrés, des migrants, de ceux qui arrivent en France, mais aussi de leurs descendants, qui sont en général de nationalité française, ce qu'on appelle d'abord les deuxième génération, puis troisième génération, ou qu'on va dire issus de l'immigration, etc. En fait, la question qui est posée à partir des années 80, c'est la question de la place, en fait, de ces fractions sociales dans la société française. Donc vous avez un développement, donc ce que j'ai disais dans mon introduction, vous avez un développement en fait à partir des années 80 de deux formes opposées de nationalisme en fait. D'un côté le Front National que l'on va souvent désigner comme le seul porteur en fait d'un nationalisme virulent, etc. Mais vous avez aussi en fait tout un discours qui se met en place, tout un discours politique qui se met en place dans les années 80, qui va être fondé sur ces deux pôles que sont les valeurs de la République. Et puis l'intégration, où l'on va bien sûr, ces deux valeurs, enfin ces deux notions vont de pair, elles sont associées, elles ne vont pas l'une sans l'autre, parce que ce qui fait exister la revendication des valeurs de la République, alors c'est d'une part le Front National, c'est-à-dire la gauche va utiliser ce discours contre le Front National, mais aussi en fait pour désigner le problème supposé de l'intégration, c'est-à-dire que les migrants ou les descendants de migrants seraient étrangers en fait à ces valeurs de la République, ou en tout cas leur adhésion à ces valeurs de la République pourrait poser problème. Et c'est notamment autour de l'islam, de la question de l'islam et de sa compatibilité supposée avec les valeurs de la République, enfin de son incompatibilité supposée avec les valeurs de la République, que les débats vont s'organiser à partir des années 80. C'est-à-dire que ça fait les débats qui s'enveniment aujourd'hui autour de l'islam, ça fait 30 ans en fait qu'ils sont posés en France et où non seulement les hommes politiques, mais les intellectuels, les journalistes, etc., s'expriment sur ce point depuis 30 ans en France. Donc l'identité nationale, en 2007, l'identité nationale, notion qui est promue par Nicolas Sarkozy, en fait, elle opère en quelque sorte la synthèse de ce nationalisme de gauche et de ce nationalisme d'extrême droite. Avec donc un durcissement et un surenchérissement continu des lois sur l'immigration et donc qui produit cet effet d'expulsion dont j'ai parlé, enfin d'expulsion ou d'exclusion dont j'ai parlé à propos de la Côte d'Ivoire ou de l'Ouzbékistan, c'est-à-dire on a des phénomènes tout à fait similaires où on va désigner en fait une identité nationale, une population autochtone, si vous voulez. On va désigner une population autochtone, non plus à partir de considérations ethniques comme en Ouzbékistan ou en Côte d'Ivoire, par exemple, mais on va la désigner d'une manière idéologique, en fait, par son association à la République et aux supposées valeurs républicaines. Et on a là donc un phénomène qu'on voit un peu, je veux dire, la question de l'islam est posée au niveau mondial, on pourrait dire, mais particulièrement fort en France, où on voit que c'est l'exclusion de l'islam, enfin, qui va permettre en fait de définir la notion d'identité nationale. Donc je vous ai mis ici là quelques repères encore, donc où vous avez donc à partir des années le début des débats médiatiques, enfin ce que je disais un instant plus tôt sur la compatibilité de l'islam avec les valeurs républicaines, donc autour de questions qui vont naître et qui vont être montées en épingle, apparaître comme des polémiques, si vous voulez, au niveau national et qui vont véritablement déchirer la société française, notamment les questions du voile à l'école, donc un premier débat dans les années 90 et un deuxième dans les années 2000, la question de la laïcité, donc dans ce cadre-là, est de plus en plus mise en avant, si vous voulez, et cette question de la laïcité, évidemment, lorsque cette notion de laïcité et agité, c'est en général en fait pour désigner l'islam comme posant problème. Donc l'identité nationale en France se construit en fait autour de l'identification, là encore, d'une population autochtone en fait, qui n'ont pas considéré comme une entité raciale ou une entité ethnique, mais comme une entité en fait soudée par son association à la République et aux valeurs républicaines, et qui désigne en fait en creux comme l'autre face, si vous voulez, de la médaille, en fait l'exclusion des immigrés et de l'islam de cette identité nationale. Donc comme en Côte d'Ivoire et en Ouzbékistan, la focalisation sur les étrangers met en question en fait leur légitimité de leur appartenance nationale et ou de leur citoyenneté, si vous voulez, non seulement des étrangers en tant qu'étrangers, mais en fait de pans entiers de la société, de fractions sociales entières. Donc là aussi, on constate en France ce phénomène en fait non seulement d'invention d'une autochtonie, d'autochtonisation de l'État, ce que j'ai appelé l'autochtonisation de l'État, et puis cette identité nationale qui procède, en fait, qui est indéfinissable, mais qui procède bien par exclusion et par fractionnement de la société. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai été un peu long. J'espère que je n'ai pas été trop confus ou trop précis dans mes explications. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, ou bien si vous avez des remarques à me faire, peut-être que tu as quelque chose à dire, Patrick. Oui. Oui, alors j'aurais peut-être dû préciser ça. Pour moi, en fait, c'est la même chose, l'anthropologie et l'ethnologie. Je les utilise comme des synonymes. L'anthropologie, donc sur les figures historiques comme Lévi-Strauss, etc., a longtemps été identifiée à la science des sociétés primitives ou la science des autres, si vous voulez, d'une certaine façon. Mais en fait, il s'agit tout simplement d'une science, d'une discipline qui étudie les formes d'organisation sociale, la diversité des formes d'organisation sociale, la diversité des sociétés, et donc qui procède par enquête, ce qu'on appelle par immersion, C'est-à-dire qu'on va étudier en fait la société par un séjour prolongé, en faisant ce qu'on appelle des enquêtes de terrain, d'accord ? D'où on essaye, donc sur des petits groupes sociaux, et d'où on essaye ensuite de tirer des enseignements plus généraux en fait sur les formes d'organisation sociale de ces groupes, donc sur les différentes sociétés. Oui, tout à fait, oui, oui, oui.
J'aimerais bien que vous veniez maintenant sur les mouvements qui sont à l'œuvre et qui peuvent animer les processus que vous avez décrits. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quels sont les groupes sociaux qui pourraient apparaître ou qui apparaissent déjà comme gagnants de ce mouvement de nouveaux partages des citoyens, donc la même chose en Ouzbékistan et même question pour la France.
C'est très difficile de répondre en ce qui concerne. C'est-à-dire que ces groupes sociaux sont alors il y a différents processus qui sont à l'œuvre, d'accord. Donc par exemple il y a une de mes collègues qui a travaillé sur les tensions scolaires en Côte d'Ivoire pendant les années au début des années 90. Elle montre très bien, si vous voulez, vous avez qu'il y a un déclassement en fait des étudiants, donc qui subissent un déclassement, ce qui un phénomène qui existe aussi en France d'une certaine façon. Qu'ils subissent un déclassement et que donc ils vont avoir une revendication d'autant plus forte, un conflit avec l'État d'autant plus fort que finalement leur valeur, la valeur de leur diplôme sur le marché du travail finalement va disparaître, d'accord. Et effectivement, on va retrouver donc dès le début des années 90, en fait, on peut dire que la guerre commence à l'université. C'est-à-dire l'université est le fief de l'opposition, c'est le fief du FPI. Donc vous avez tous les profs de l'université, tous nos collègues sociologues, économistes, anthropologues, etc. de l'université, beaucoup d'entre eux sont au FPI et vont venir au pouvoir en fait avec Gbagbo. Et vous avez en fait les mouvements étudiants qui sont très puissants, très virulents en 1990. Ce sont eux qui contraignent au retour du multipartisme. Et vous avez une guerre en fait qui se met en place entre l'État, entre les militaires et puis les leaders des mouvements étudiants au début des années 90. Et ces mouvements étudiants, ces leaders étudiants du début des années 90, après, on les retrouve, l'un d'eux est Guillaume Soro, c'est-à-dire le chef des rebelles qui va devenir Premier ministre. Et puis l'autre, c'est le chef des milices de Gbagbo, les patriotes, Blégoudé. Donc vous avez comme ça, on peut retrouver, si vous voulez, autour de processus on peut dire de frustration, notamment des jeunes générations qui ne peuvent plus trouver de débouchés ni dans le monde politique ni dans le monde économique. En fait, vous avez vous avez là l'une des clés aussi du conflit dans ces processus de blocage en fait des systèmes de promotion sociale et de donc voilà, ça c'est une partie de la réponse. Après, vous avez des intérêts bien sûr économiques beaucoup plus larges qui sont en jeu qui sont en jeu dans ces phénomènes. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, pour poursuivre votre propos, donc que des groupes d'étudiants se sentent, ne trouvent pas leur place dans la société, donc et qu'ils imaginent donc un moyen de s'identifier et donc de se réunir autour d'un concept de nationalité révisé, ça signifie qu'ils veulent prendre la place donc de ceux qu'ils veulent chasser. Et donc, il y a bien donc, des transferts de pouvoir, mais qui reposent en fait sur soit des pouvoirs symboliques, soit des pouvoirs économiques ou financiers. Donc, tous les mouvements que vous avez décrits ne se passent pas dans un monde abstrait dans lequel, tout d'un coup, le nationalisme serait un objet de querelle.
Non, vous avez raison. Et je me rends compte que j'ai oublié de passer ma conclusion. C'est-à-dire sur, effectivement, le rôle de l'économie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est en jeu, en fait, dans ce phénomène idéologique de l'identité nationale ? En fait, si l'on regarde, fait une comparaison très rapide de ces trois situations. En France et en Ouzbékistan, donc au niveau idéologique, on a aussi un tournant, enfin au niveau idéologique et des politiques économiques, on a aussi un tournant libéral. C'est-à-dire, ce tournant libéral, il met en cause en fait le rôle de l'État. C'est-à-dire que l'État va se redéfinir non seulement par rapport à l'identité nationale, l'État se redéfinit en fait dans le rôle qu'il s'attribue vis-à-vis du monde économique. C'est sa relation, son rapport à l'économie en fait qui est redéfini. Et qui est redéfini dans le sens où le slogan des années 90, c'est moins d'État, mieux d'État. Enfin, je veux dire, qui se redéfinit dans le sens dans le sens où on voit se développer aussi dans la crise aujourd'hui, d'une domination en fait de l'État par le marché. Et notamment au niveau de l'Union européenne, enfin je veux dire qui se définit dans le cadre de l'Union européenne. Donc il y a très clairement, en fait, aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, et ce sont les États eux-mêmes, bien sûr, qui mettent ces mécanismes en place, il y a très clairement, en fait, à travers la libéralisation financière, la libéralisation de l'économie, qui se passe donc en France à travers l'Union européenne, qui se passe en Côte d'Ivoire à travers les plans d'ajustement structurel dans les années 80. En fait, on a une soumission, on organise en quelque sorte une soumission des États vis-à-vis finalement des marchés ou des puissances financières ou des organisations financières internationales en ce qui concerne un État comme la Côte d'Ivoire. Donc on a là une minorisation de l'État, en fait, une diminution de son rôle vis-à-vis de l'économie et une minorisation du rôle de l'État. Donc, d'une certaine façon, l'idéologie de l'identité nationale intervient comme une espèce de compensation, en fait, de ça, c'est-à-dire que l'État va chercher à retrouver une légitimité qui est entamée par les marchés, il va chercher à la retrouver, en fait, en se repliant sur la défense des intérêts supposés d'une population autochtone. En Ouzbékistan, on ne peut pas donc parler de libéralisme ni de capitalisme. C'est un régime qui demeure où l'État maintient en fait son hégémonie sur l'économie. Mais par contre, il y a très clairement la perte du projet politique que signifiait bien sûr le communisme. D'accord ? Donc là aussi, on a un État qui a totalement perdu ce qui justifiait l'État soviétique antérieur, c'est-à-dire l'idée d'un projet de modernisation de la société, et bien sûr le rôle éminent de l'État dans l'organisation de l'économie, puisque l'ensemble de l'économie était étatisée. Donc il n'y a plus ça en Ouzbékistan. Donc l'État non seulement est dans une situation de ruine économique, c'est-à-dire toute l'industrie est par terre et toute la production agricole aussi, ou quasiment, mais l'État n'a plus de projet politique. Donc il se recentre sur l'identité nationale comme étant le seul projet politique qui lui reste. Projet politique fantasmé. En Côte d'Ivoire et en Ouzbékistan, on est dans une situation d'effondrement économique. Et donc l'identité nationale, c'est le moyen de séparer en fait l'image de la nation, donc ce que je disais tout à l'heure, d'une performance économique qui est devenue négative. Et d'une manière générale, en fait, on peut dire que la globalisation, en fait, c'est aussi, en fait, on le voit bien aussi dans le développement de la crise actuelle, si vous voulez, et les discours qui sont tenus sur l'économie, c'est-à-dire que on ne parle que de compétitivité, c'est-à-dire qu'il faut restaurer la compétitivité de l'industrie française ou de l'économie française. Pourquoi cette compétitivité? Pourquoi il faut la restaurer? Parce qu'on subit la pression, en fait, la concurrence étrangère de l'ensemble du monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer cette compétitivité? Il faut baisser le coût du travail. Je veux dire, c'est le discours qu'on entend partout. Donc les processus, ils sont très clairement visibles, c'est-à-dire l'État est soumis au marché, il est dans la dépendance des marchés, et l'État doit honorer ses engagements envers le marché. Et que doit faire l'État pour cela? Et il faut répondre en fait à une pression. Qui est mise sur l'économie et qui vient de la compétition internationale. C'est pour ça qu'il faut restaurer la compétitivité. Mais précisément, qu'est-ce qu'étaient les plans d'ajustement structurel ou qu'est-ce qu'étaient les politiques économiques depuis les années 80? Ben, ça consistait à libéraliser les économies, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on passe d'économies semi-fermées ou semi-ouvertes, comme vous voulez, d'économies protégées, à des économies ouvertes, c'est-à-dire qu'on organise un marché concurrentiel international. Donc on est dans un système qui se mord la queue, si vous voulez. Et donc dans ce processus, l'identité nationale, c'est aussi en quelque sorte une espèce de métaphore ou de transposition, en fait, d'une concurrence internationale exacerbée, d'une concurrence entre les nations exacerbée. Vous voyez ? Donc je veux dire que je pense que, alors après, il y a des intérêts, je veux dire, il y a des manipulations beaucoup plus cyniques et beaucoup plus franches que ça. Enfin, à chaque fois que l'État est en difficulté sur le plan économique, il s'arrange pour mettre en avant le problème posé par l'immigration. Ça, c'est très clair dans la politique française, par exemple, ou on peut dire en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ce sont des phénomènes très clairs et évidemment cette question des étrangers, la question de l'immigration, etc., elle intervient bien sûr comme un espèce de cache-sexe, comme un paravent pour attirer l'attention sur d'autres questions que celles qui sont posées par l'économie. Donc en ce sens-là, mais ça c'est très valable en France, c'est-à-dire on peut dire que globalement, bien sûr, ce sont les intérêts du capitalisme qui se voient fortifiés. Les groupes sociaux, en l'occurrence, là, mais ça c'est le cas dans le cadre de la France. On ne peut pas dire la même chose dans le cadre de l'Ouzbékistan ou de la Côte d'Ivoire.
Pourriez-vous revenir sur votre polémique avec les historiens sur les différences ou les différenciations entre nationalisme, nation, identité nationale? Parce qu'en Europe, l'identité nationale n'est pas qu'une idéologie d'État, ça peut être aussi une idéologie, par exemple, pour des régions comme la Catalogne, la Lombardie, la Flandre, l'Écosse, etc., qui montrent qu'il n'y a pas que, disons, les appareils d'État qui l'utilisent comme un moyen pour, disons, asseoir leur pouvoir, mais il y a aussi des bourgeoisies locales ou en tout cas des mouvements qui existent et qui sont des identités nationales revendiquées comme telles, oui, en tant qu'ils veulent faire une nation. Donc là, bon, alors je ne sais pas si ça existe aussi en Côte d'Ivoire ou en Ouzbékistan, mais en France aussi ça existe. Et quand vous parliez de la nouveauté de l'identité nationale comme une réécriture de l'histoire, je veux dire, la Révolution française en a fait pas mal de la réécriture de l'histoire.
Bien sûr, nos ancêtres, hein, c'est, les nos Gaulois, ancêtres, c'est, les Gaulois, c'est issu de ça, bien sûr.
Et voilà.
C'est le même processus.
Ou le fait que, en gros, tous les Occitans se sont fait Occitans. Ça a été passé pour pertes et profits de l'unifier de la nation française. Bon, donc voilà. Donc c'est pour revenir là-dessus, parce que vous dites anthropologue a une certaine définition. Et puis les historiens en donnent d'autres. Est-ce que vous pouvez éclairer là-dessus ?
Non, ce que je veux dire, c'est ce que je voulais dire par rapport aux historiens. Et je veux dire, il y a eu des historiens très, je trouve très clairs et très, que moi personnellement j'approuvais beaucoup, comme Gérard Noiriel par exemple, qui a écrit un petit livre immédiatement en 2007 qui s'appelle « À quoi sert l'identité nationale ?» Et d'ailleurs, c'est lui qui dit, je me base sur lui, lorsqu'il dit que la notion d'identité nationale a été inventée par les cercles d'extrême droite dans les années 80, c'est lui qui le montre très clairement. Mais le même Noiriel, d'ailleurs, dans le même livre, il fait remonter l'identité nationale à la Révolution française. C'est-à-dire, il y a deux parties dans son livre. La première, il explique que l'identité nationale a été inventée par la Révolution française. Et dans la deuxième partie, il dit que la notion d'identité nationale a été inventée par les cercles d'extrême droite. Donc là, il a une contradiction. C'est-à-dire, c'est là où je dis, enfin, moi, je dis, il ne gère pas, en fait, la distinction entre, effectivement, l'idée de nation, qui est une invention de la Révolution française ou de la Révolution américaine, c'est-à-dire l'idée qui va de pair avec l'idée de démocratie, c'est-à-dire que le pouvoir n'est plus celui du roi qui procède de droit divin, mais le pouvoir procède du peuple rassemblé en une nation. Donc l'idée de la nation, de l'État-nation, elle vient de là, elle vient bien de là. C'est-à-dire quand on enlève le pouvoir au roi, enfin que ce pouvoir en tout cas n'est plus de droit divin, mais qu'il procède en fait du peuple. C'est ça l'idée de nation. Donc effectivement, cette idée-là, elle date bien de cette période des révolutions françaises, américaines, et puis des processus politiques des années, fin du 19e siècle, en ce qui concerne l'Europe occidentale. Mais on ne parle jamais d'identité nationale. Donc effectivement, le nationalisme a été extrêmement exacerbé au 19e siècle. Il est directement, on pourrait dire, responsable de l'enclenchement des deux guerres mondiales, la première et la deuxième, qui sont les périodes les plus meurtrières, en fait, dans l'histoire de l'humanité, je pense. Enfin, je veux dire, donc le nationalisme, bien sûr, ne date pas d'hier. Et des processus similaires, en fait, se voient, bien sûr, dans l'histoire des deux derniers siècles. Mais la question que je pose, et moi, c'est que, à travers cette notion d'identité nationale, malgré tout, elle est spécifique, elle est récente, et il faut voir, en fait, finalement, qu'est-ce qui se manifeste, pourquoi elle surgit à ce moment-là, et qu'est-ce qui se manifeste comme nouveau, en fait, dans cette période à partir des années 80-90. Or, c'est très clairement, en fait, ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation date des années 80, elle est mise en place dans les années 80 par des mécanismes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mondialisation, c'est bien la mondialisation de l'économie, c'est bien ce qui se mondialise, en fait, c'est bien le capitalisme, le marché, ce qu'on appelle le marché unique, le marché global, par la disparition de l'URSS, la conversion de la Chine au capitalisme, c'est-à-dire la disparition, en fait, d'une alternative au capitalisme. Le monde qui était coupé en deux, entre le monde occidental capitaliste et le monde socialiste, ce monde-là, enfin, le socialisme disparaît, et donc on a bien une unification du capitalisme. C'est ça qui se passe à partir des années 90, et ça s'opère, en fait, à travers la mise en place, à nouveau, du libéralisme. C'est-à-dire que, grosso modo, la période qui va de la, on pourrait dire des années 30 jusqu'aux années 75-80, elle est dominée, en fait, elle commence par la mise en place du New Deal aux États-Unis pour répondre à la crise de 1929. Elle va être dominée, cette période, par la mise en place d'États, en fait, qui sont interventionnismes dans l'économie, qui interviennent dans l'économie. Et en fait, cette période, elle est une rupture avec la période antérieure, c'est-à-dire de toute la période du 19e siècle jusqu'aux années 20, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, qui est une période aussi dominée par le libéralisme, et où aussi, en fait, on voit prospérer des idéologies nationalistes. Et je pense que là, il faut faire tout à fait le lien entre, finalement, libéralisme économique et un certain type, on va dire, de nationalisme.
Je suis peut-être un peu simpliste, mais est-ce que, in fine, il n'y a pas aussi une stratégie de partis politiques, d'hommes politiques, pour conserver ou conquérir le pouvoir en Absolument. Stigmatisant, en discriminant c'est une stratégie comme une autre. Je ne sais pas, l'an dernier, j'ai participé à la conférence qui avait lieu sur la montée du nazisme. Hitler, bon, bah, c'était ça. C'était son cheval de bataille. Est-ce que les populations, on leur bourre pas un peu le mou, quoi?
Absolument, on leur bourre le mou, je pense totalement. Donc c'est très clair, bon, c'est très clair avec Nicolas Sarkozy, hein, c'est très clair avec... avec Henri Conan Bédier qui met en place la notion d'ivoirité en 1994 en Côte d'Ivoire. C'est une manipulation électorale, enfin c'est une manipulation électoraliste si vous voulez, pour couper l'herbe sous le pied de son opposition et puis exclure l'un des candidats de l'élection présidentielle. Donc c'est bien une manipulation. N'empêche que cette manipulation, elle a mené à une guerre, c'est-à-dire que quelque part, ça prend. De même que Hitler, il a bien mis en place un programme politique particulier qui consistait, comme vous le savez aussi bien que moi, à mettre en place la guerre et puis la destruction des Juifs, etc. Donc, effectivement, ce sont des manipulations électorales, mais je pense qu'il faut les interpréter. Et elles sont mises en place de manière extrêmement cynique, je pense, la plupart du temps. Mais il faut aussi les interpréter, en fait, dans un cadre plus général de qu'est-ce que ça signifie, finalement, dans la conception même de l'État, c'est ça que j'ai essayé de dire, dans la conception même de l'État et de la citoyenneté, et de comment on conçoit la légitimité de l'État, comment on conçoit son rôle, comment on conçoit la citoyenneté, qu'est-ce qui définit un citoyen, etc. Je pense qu'il y a des transformations tout à fait majeures qui s'opèrent dans ce domaine-là, qu'on pourrait dire, ça c'est le domaine du symbolique en fait, ce qui définit le sens des choses, le sens de l'État, le sens de la citoyenneté, etc. D'autres des questions ou bien des remarques? Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous avez le droit de me le dire.
J'aimerais savoir s'il y a un lien entre individualisme et ce concept récent d'identité nationale.
Moi, je dirais pas. Non, je pense pas. Par exemple, l'Ouzbékistan n'est pas du tout une société individualiste. Au contraire, là, on a vraiment un refoulement de l'individualité. Autour de cette notion, donc je n'ai pas le temps de vous en parler parce que ça me lancerait dans des longs développements. Mais on est dans le cadre d'une société qui a été dominée pendant 90 ans par l'URSS, ou 70 ans, par l'URSS, donc par le Parti communiste, etc., donc par une certaine forme de collectivisme. Mais on est aussi dans le cadre d'une société en fait qui se retraditionnalise et donc dans cette retraditionnalisation, par exemple, moi je travaille sur le travail, je travaillais sur le travail auprès de jeunes paysans en général qui migraient vers les villes pour travailler en ville, soit dans des usines, soit dans des chantiers de construction, etc. Donc vous avez un phénomène de vraiment reprolétarisation du monde rural en Ouzbékistan, où les gens fuient les campagnes parce qu'il n'y a plus de revenus monétaires en fait. Donc pour gagner des revenus monétaires, ils doivent aller travailler en ville. Et en fait, ces jeunes Ouzbeks, ces jeunes paysans, ils passaient leur temps à me parler de leur mariage, soit de leur mariage projeté, soit du mariage qu'ils venaient d'organiser, soit du mariage de leurs frères, etc. Et dans la question du mariage, il y a toujours, en fait, vient la question de la soumission en fait aux parents. Donc il faut absolument, donc ce sont les parents qui choisissent l'époux ou l'épouse. Donc la mère choisit plutôt les épouses, ces brus qui vont travailler à la maison sous sa direction. Les pères choisissent plutôt les belles filles, etc. Mais non, c'est le contraire. Les beaux fils, les gendres. Mais, bref. Et donc, lorsque les gens me disent, je m'étonne, je me dis, mais vous acceptez, etc. Donc, ils me disent toujours, oui, c'est la tradition. C'est-à-dire, oui, c'est Ouzbek Chilik. Ouzbek Chilik, ce que je marquais au début de mon diaporama, ça veut dire, en fait, ce qui se fait, ce qui est Ouzbek, en fait. C'est-à-dire, une espèce de norme de l'identité nationale. C'est ça qui est désigné comme étant la tradition. Et c'est au nom de la tradition qu'il y a véritablement un refoulement des désirs individuels et même des individualités. Les individualités doivent s'effacer, en fait, devant le groupe familial. Donc là, vous avez une société qui est totalement partie dans un dans un dans une direction, enfin, qui n'est pas dans dans un processus d'individualisation. Et vous avez bien une affirmation très forte de l'identité nationale.
Est-ce qu'ils n'en ont pas peur, justement ? Comme en France, la déchristianisation a certainement un lien avec la peur de l'islam.
Totalement.
Le fait que les églises soient vides et que l'islam soit une religion...
Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais que la religion pose problème en France d'une manière générale. Donc, c'est une vieille histoire de la répression des cathares, de la répression du protestantisme. Enfin, je veux dire, c'est une vieille histoire avant même l'invention de l'idée de nation et d'état-nation, où on a construit et qui se prolonge, en fait, à mon avis. Qui se prolonge par-delà, en fait, l'invention, enfin, le détachement de la religion, donc la loi de laïcité, la séparation de l'Église et l'État, etc., et qui aujourd'hui va se focaliser, en fait, sur les musulmans, mais qui aussi dans le rejet des sectes, le rejet de, c'est-à-dire la religion, véritablement, je pense, pose problème dans la société française. Question qui n'est pas posée dans d'autres sociétés comme en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, ou, etc. Donc c'est autour véritablement de cette question de la, enfin, je veux dire, l'islam, la question de la place de l'islam dans les sociétés, enfin, en Occident, est posée d'une manière générale, avec un rejet de l'immigration, enfin, les mêmes processus qu'on trouve en France, on les trouve en Allemagne, on les trouve partout, mais c'est en France où elle est le plus fortement affirmé, en fait, autour de cette idée d'État républicain, de modèle républicain d'intégration, de valeurs républicaines, etc., qui sont toujours, finalement, ou de laïcité, qui sont toujours des notions qui excluent l'autre, en fait, qui sont faites pour exclure l'autre ou pour le soupçonner de ne pas adhérer, en fait, à ce qui définit la nation française. Donc, je pense que... Enfin, ma réponse se situerait là. Et d'ailleurs, enfin, là où il y a une contradiction sur la laïcité, si vous voulez, si moi je travaille sur l'Algérie maintenant, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, depuis 2 ans je travaille maintenant sur l'Algérie, mais si vous regardez l'histoire de l'Algérie, donc qui était supposée française jusqu'en 1962, eh bien, en Algérie, non seulement la loi de laïcité, sur la laïcité, la loi de séparation de l'Église et de l'État ne s'est jamais appliquée, mais les catégories de population, enfin, dans le processus même de colonisation, ce qui servait à catégoriser les populations, c'est l'appartenance religieuse, avec les musulmans, les juifs et les Européens. Et ça l'a été jusqu'en 1962. C'est-à-dire qu'en 1962 encore, dans les manifestations qui ont eu lieu à Paris, etc., les Algériens étaient désignés comme Français musulmans d'Algérie. C'est-à-dire c'est la religion qui les catégorisait. De même qu'à travers Vichy, l'État de Vichy, donc là on n'est plus dans la République, mais l'État de Vichy a bien, c'est une catégorie religieuse, les Juifs, en fait, qui a été exclu. C'est à travers la dénationalisation des Juifs, etc. Donc, c'est toujours la question de la religion, en fait, en France. Enfin, c'est toute la contradiction de l'État républicain. C'est que, en fait, c'est précisément la religion qui va servir à catégoriser les gens.
Peut-être une dernière question avant de conclure.
Enfin, pas seulement la religion, mais c'est un des éléments qui apparaît de manière récurrente.
Non, c'est bon. Est-ce que vous avez étudié, ou est-ce que vous pourriez nous dire, vous parlez du mot créolité, par exemple, qui a été inventé. Est-ce que c'était pour une recherche d'identité? Voilà, si est-ce que vous connaissez un petit peu ce
mot.
À quoi
vous faites référence exactement?
Comment?
À quoi plus précisément?
La notion de le mot créolité qui a été inventé, je crois, par Aimé Césaire, enfin qui a été mis au goût du jour au moins par Aimé Césaire. Est-ce que c'était pour avoir une recherche d'identité pour les gens habitants, donc les îles, les Français d'origine créole, etc.? Est-ce qu'il y a aussi un problème vis-à-vis de l'identité de ces gens-là, enfin de leur notion qu'ils ont de leur identité?
Oui, je pense.
C'est un très joli mot, mais.
C'est un joli mot, oui. Celui de Négritude était joli aussi. Mais non, je pense que, enfin, je pense que là, le bien sûr, c'est un problème d'identité qui est posé, bien sûr. C'est-à-dire l'identité, non seulement l'identité, mais la nature des rapports en fait entre l'île, le département d'outre-mer, et puis la métropole en fait. Donc créolité, c'est enfin, je suis pas du tout un spécialiste de la question, mais je dirais que c'est quelque part le dépassement en fait des questions raciales qui se posaient auparavant. Donc c'est à la fois l'affirmation d'une identité propre au département d'outre-mer qui est dépendant de la métropole. Donc Aimé Césaire était indépendantiste. Hein. Et puis, en même temps, c'est le dépassement, en fait, des identités raciales qui étaient posées avant par l'esclavage, etc., entre les Noirs, les Blancs, et puis toutes les catégories de mulâtres, de métis, etc. Donc, d'une certaine façon, c'est la créolité, c'est la... Oui, véritablement le dépassement de ça, c'est-à-dire le fait de vouloir faire une unité, en fait, avec toute cette société divisée. Oui, 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 tout à fait. Et pour en revenir, je n'ai pas tout à fait répondu à la question des identités régionales, mais bien sûr, vous avez, c'est tout à fait important et tout à fait dans le même mouvement. C'est-à-dire, on est dans le monde actuel, on a en quelque sorte une prolifération d'identités nationales. Et qui vont entrer en concurrence les unes vis-à-vis des autres. Et c'est toujours, enfin, je veux dire, aussi bien sur la Flandre que sur la Catalogne ou pas l'Écosse, mais donc bien sûr, c'est des nationalismes plus anciens. Le nationalisme catalan, il date du 19e siècle et l'Écossais aussi. Et la question écossaise des relations entre l'Écosse et l'Angleterre est posée depuis des siècles et des siècles. Mais ce qu'on constate, ce qu'on voit apparaître aussi, c'est autour d'arguments économiques que se joue en fait finalement une demande d'autonomie ou une demande d'indépendance qui se fait de plus en plus forte. C'est-à-dire, on se dit, la Catalogne aussi bien que la Flandre, se dit, ben, je vais me débarrasser des régions les plus pauvres parce que je ne veux plus financer, etc. Moi, je ne peux pas prédire l'avenir, mais effectivement, on est visiblement dans un processus de morcellement qui, avec la crise économique, peut totalement s'accélérer. C'est-à-dire la crise économique qu'on connaît actuellement, qui, à mon avis, est une crise majeure et dont on n'a pas fini de voir le bout, elle peut produire vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'on est dans une période assez dangereuse. Alors effectivement, la question du nationalisme catalan, la question de la langue, en fait, c'est une question qu'on a tendance souvent à naturaliser. C'est-à-dire que les langues, et donc il y a des très bons historiens qui ont écrit là-dessus. Par exemple, au moment de la Révolution française, il devait y avoir peut-être 7 ou 8% de la population française qui parlait français. Au moment de la Révolution italienne, ça devait être à peu près du même ordre. Enfin, de la Révolution, c'est-à-dire de l'unification italienne, un siècle plus tard, dans les années 1860, ça devait être peut-être 5 ou 10% de la population italienne qui parlait italien. Je veux dire, il y a ensuite un travail de codification de la langue, puis de diffusion de la langue grâce à l'école, enfin, grâce à un certain nombre d'instruments. Et donc, c'est la même chose pour la Catalogne et la différence entre le catalan et le castillan et, enfin, sur l'ensemble des langues. Parce qu'avant, enfin, je veux dire, on crée une homogénéité, d'accord ? On crée une homogénéité, on crée des frontières linguistiques. Qu'est-ce qui différencie le catalan de l'occitan, par exemple ? Pourquoi est-ce que ce sont deux langues différentes, alors que ce sont des langues d'une même famille, etc. C'est toujours des choses assez arbitraires, et ce sont des grammairiens qui les prennent en charge. De même, lorsque les savants soviétiques, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand les savants soviétiques ont délimité les Kazakhs des Kirghiz, par exemple, qui sont deux peuples proches, il y a à chaque fois un travail de codification de la langue. C'est-à-dire, on va choisir de créer une langue à partir du dialecte. Ben, clairement, en Ouzbékistan, c'était comme ça. On prend le dialecte de telle région. Et puis on va chercher à systématiser, donc à créer des règles de grammaire, à créer des dictionnaires, etc. On codifie la langue. Mais la question du nationalisme va toujours de pair avec une question linguistique. Sauf en ex-Yougoslavie, où ils parlaient tous la même langue.
Bien, ben, je pense qu'il est temps de conclure et peut-être de vous inviter à venir prendre un verre dans la petite salle d'à côté. Et puis, ben, vous remercier encore, remercier Laurent d'être venu nous voir. Et puis, vous remercier vous d'avoir été présent dans cette salle. Voilà, moi je serais bien resté encore avec pas mal de questions en fait qui me tournent dans la tête, mais je les retiens pour tout à l'heure dans la voiture. Et écoutez, la prochaine conférence normalement c'est le 12 janvier. On va changer de domaine puisque on va s'intéresser à la génétique de la nature humaine et à s'interroger si le meilleur des mondes c'est pour demain. Voilà, j'espère que vous serez là et puis à bientôt. Merci.
Merci beaucoup de votre attention.